L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème « La parabole du Samaritain ». Et nous avons toujours pour cette étude Jonathan Junior Mambou. Bonjour frère.
Bonjour et bonjour à vous qui venez de nous rejoindre.
Merci pour cette disponibilité, ce temps de sacrifice, que le Seigneur te bénisse et te le rende au centuple.
Amen.
Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter tous à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici devant toi pour entendre ta parole, pour entendre ton message, pour entendre ton amour, pour entendre ton messager. Dispose nos cœurs, Seigneur. Cette parabole est riche en enseignements. Bénis ton serviteur, bénis ton messager, bénis ta parole. Bénis ces hommes et ces femmes qui nous écoutent en ce moment de par le monde. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen.
Comme je le disais, nous sommes toujours en train de faire, nous sommes toujours en train de parler sur la parabole du Samaritain. Ça fait plus de 30 émissions que nous sommes en train de partager. C'est vraiment merveilleux, Jonathan, que Dieu te bénisse,
Amen.
Te rende vraiment au centuple. Tu es un grand enseignant de la parole de Dieu, sans te faire gonfler la tête.
Mais
c'est vraiment merveilleux. Je ne m'attendais pas à ce qu'on aille dans autant de profondeur. Dans Luc 10, verset 30, Jésus dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. » Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Jonathan, qu'est-ce que le Seigneur t'a mis à cœur aujourd'hui sur cette parabole?
Un monsieur était à Jérusalem. Et il quitta Jérusalem pour descendre vers Jéricho. Et nous savons ce qui lui est arrivé. Il lui est arrivé ce qui arrive aujourd'hui à beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens se comportent un peu comme ça. Ils vont dans des églises, mais en réalité, lorsque Dieu les regarde, ils considèrent qu'ils ont en fait changé de position. Ils sont dans les temples, mais en réalité, ils ont quitté Jérusalem. Et ils sont en train de descendre vers Jéricho. C'est un peu l'image de ce verset que je suis en train de chercher. C'est dans Jérémie chapitre 7, où Dieu dit ceci à Jérémie. Je commence au premier verset. « La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là, publie cette parole. Et dis, écoutez la parole de l'Éternel. » Vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous laissez pas à des, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Ça, c'est un message que Dieu livrait par Jérémie pour un peuple qui se disait peuple de Dieu. Oui, ils étaient des Juifs, mais qui allaient au temple, qui aimaient beaucoup le temple, parce que le temple de Salomon était une gloire pour les Juifs à l'époque. Ça, c'est vrai. Mais en réalité, Dieu ne regardait pas le temple comme un bâtiment. Il voyait les personnes. Parce qu'en fait, même s'il avait permis qu'il y ait construction d'un temple, c'était pour un peuple, pour qu'il y ait communion entre lui et des hommes, et non des briques. Et curieusement, il a vu des gens qui se glorifiaient du temple, mais qui, au fait, aux yeux de Dieu, avaient changé de position. Ils avaient, ils avaient eu à se déplacer en quittant Jérusalem et descendant vers Jéricho. Ça a un sens pour dire que ce sont des hommes qui ont abandonné le Seigneur et qui commencent à descendre vers le péché. Et malheureusement, ils étaient aveugles et continuaient à dire « Ah, nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans l'Église. » Donc, ce qui compte le plus pour Dieu, ce n'est pas simplement d'aller à l'Église pour écouter la parole de Dieu. Mais ce qui est plus important pour Dieu, c'est d'aller écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Je vais m'appuyer sur un verset. Dans Romains chapitre 2, on dit ceci au verset 13. « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » C'est-à-dire, écouter la parole telle qu'on la partage là, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas ça qui fait que quelqu'un soit juste devant Dieu.
La mettre en pratique, c'est nettement mieux.
Voilà. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Elle nous garantit beaucoup de choses. Premièrement, elle nous maintient à Jérusalem, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Et tous ceux qui quittent Jérusalem, en fait, ce sont ceux qui ne choisissent pas de rester à Jérusalem, en fait, de rester attachés à la parole de Dieu. Et nous bénissons Dieu parce que Dieu nous donne la vie, même ceux qui nous suivent, qui sont peut-être en train de traverser ce temps qu'on peut aussi appeler le temps Ichabod, un temps où la gloire de Dieu est bannie parce qu'on quitte la présence de Dieu pour s'éloigner de Dieu. Bien, malgré ce temps qui court, Jésus-Christ est présent. Il est là pour sauver, pour aider. Et nous avons dit cela la fois passée. Si Jésus-Christ a pu se pencher sur cet homme qui était tombé entre les mains des brigands, c'est aussi parce que c'était un étranger. Un étranger, c'est-à-dire un voyageur. Et nous avons insisté pour dire que de même que Christ s'est considéré comme un étranger par rapport à ce monde, nous aussi, si nous voulons sauver les gens qui sont attachés au monde, attachés au péché, nous devons être étrangers aux choses de ce monde.
Tout à fait.
Hein, ça, c'est clair.
Nous ne devons pas nous attacher aux choses de ce monde.
Oui. Si nous nous attachons aux choses de ce monde, nous aurons du mal à amener les pécheurs à pouvoir quitter le mal. Jésus-Christ n'était pas du monde. Et il voulait aussi que ces enfants que nous sommes, nous ayons cela à l'esprit. Hein, que, étant dans ce monde, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas
de ce
du monde.
Monde.
Pierre dit ceci. Pierre était directement celui qui avait remplacé Jésus-Christ dans l'Église primitive. 1 Pierre chapitre 2, verset 11, un verset quand même connu, que nous lisons quand même. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Pierre insiste pour dire à ses lecteurs qui devaient lire ses lettres qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est comme ça que nous devons nous considérer. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre.
Tout à fait.
Donc nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Notre cité se trouve là où se trouve le Seigneur Jésus. Nous devons travailler pour le bien du royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume. Et si nous ne le faisons pas, en fait, nous créons nous-mêmes des problèmes. Le chrétien qui veut sauver, celui qui quitte Jérusalem et qui descend vers Jéricho, doit se considérer lui-même comme étranger aux choses du monde. Car si lui, il aime le péché, comment peut-il prêcher celui qui est enchaîné aussi par le péché?
Bref, tous les deux sont prisonniers. Oui, comment ils vont se libérer?
Oui, ça me rappelle un événement d'un bien-aimé qui était intercesseur d'un pasteur. Et ils étaient en train de faire le service de délivrance.
Tu veux dire quelqu'un qui était dans l'équipe d'un pasteur?
Oui, dans l'équipe d'un pasteur, en groupe d'intercession.
D'accord.
Alors, ils étaient en train de faire le travail de délivrance. Pendant la délivrance, l'esprit ne sortait pas. L'esprit ne sortait pas, ils ont fait plusieurs heures, ça n'allait pas. À un moment, alors qu'ils étaient épuisés, l'un d'eux va s'approcher. Il va refaire la même chose. Il va crier sur l'esprit, on sort au nom de Jésus. Et l'esprit va se relever la personne en fait qui avait perdu conscience va se relever. Et l'esprit qui était dans la personne va maintenant commencer à s'adresser à l'intercesseuse. Elle dit, ah bon, tout le monde doit parler contre moi, toi aussi tu veux parler. Ça c'est le démon qui s'adresse à l'intercesseuse. Ah bon, tout le monde crie contre moi, toi aussi tu veux crier contre moi. Tu veux que je détaille ta vie. Et le démon commence à détailler la vie de l'intercesseuse. Détaillant que toi, tu étais tel jour dans tel hôtel, tu faisais la fornication, tu faisais ceci, cela. Et directement, le pasteur a compris.
Pourquoi il y avait autant de résistance?
Oui, il a compris que le démon qui était dans la personne qui devait être délivrée, c'était en fait un démon aussi d'impudicité. Et qui a reconnu son ami qui
s'est... La vie de l'intercesseur.
Alors, le pasteur a demandé à l'intercesseur, bon, toi, mets-toi un peu de côté. Et quand l'intercesseur s'est mis de côté, ils ont juste prié maintenant avec précision par rapport à l'esprit, et l'esprit est sorti. Alors, quand ils ont appelé l'intercesseur, ils ont prié, eh bien, le démon s'est manifesté aussi parce que dans l'intercesseuse, il y avait aussi cet esprit-là. Vous voyez, comment est-ce que tu peux, comme disait Paul à Pierre, comment tu peux amener les autres à changer si toi tu te comportes de la même manière?
De la même manière.
Voilà. Donc ça c'est un élément très important. Nous devons, nous chrétiens, être de ceux qui n'ont pas les regards aux choses de la terre, mais qui avons les regards aux choses d'en haut. Parce que c'est à cela que nous avons été appelés. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Voilà, ça c'est ce que nous devons être, ce que nous devons vouloir, chercher les choses d'en haut. C'est-à-dire, si nous le faisons, en fait, c'est une façon pour nous de montrer au monde que nous sommes étrangers par rapport au péché, par rapport à ce qui attire les hommes de la terre sur les réalités de ce monde, un peu à l'image de ce que Jean disait, n'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. En fait, lorsque nous marchons, Dieu nous voit. Mais pas seulement Dieu, Satan nous voit aussi. Pas seulement Satan, les hommes nous voient aussi. Ainsi, lorsque nous commettons des actes qui ne glorifient pas Dieu en secret, eh bien Satan le voit et il trouve des moyens pour nous accuser devant le Seigneur. Et en fait, du coup, nous perdons la puissance, la force. Et du coup, aux yeux de Dieu, nous retrouvons dans une position où nous quittons déjà Jérusalem, descendant vers Jéricho. Nous retrouvons avec des plaies parce que les brigands nous assailleront déjà. Donc ça, c'est un état dans lequel le Seigneur ne veut pas que ses enfants se retrouvent. Et si un enfant de Dieu, parmi ceux qui nous suivent maintenant, s'est retrouvé dans ces cas, eh bien, le souhait de Dieu, ce n'est pas la mort du méchant, mais il veut que le méchant se répande, qu'il change de vie. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Eh bien, si le Seigneur s'affectionnait beaucoup aux choses, sauver les hommes de la terre. C'est pour cela qu'il veut que nous aussi, ses enfants, nous qui nous déclarons être chrétiens, que nous fassions comme les chrétiens de l'Église primitive. C'était des gens qui avaient livré leur vie pour penser qu'aux choses d'en haut. Ça, c'est vraiment pour nous chrétiens d'aujourd'hui, une église modèle. Parce qu'en fait, la Bible n'a pas changé, l'esprit n'a pas changé. C'est l'esprit qui doit conduire l'église et les chrétiens doivent se donner aux choses d'en haut. Donc, on va en parler lorsqu'on va avancer. Je lis encore un autre verset dans Philippiens chapitre 3. Nous amenons toujours à comprendre que nous sommes des voyageurs sur la terre. Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, se considérait comme un étranger, un voyageur. C'est comme ça aussi que nous devons l'être. Philippiens chapitre 3, verset 17, la Bible dit ceci. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Pourquoi? Parce que ces hommes, ils ne regardaient pas les choses d'en haut, mais ils regardent les choses de la terre. Le fait de regarder les choses de la terre a fait que beaucoup de chrétiens, au lieu d'apporter le remède, qui doit sauver l'homme qui quitte Jérusalem et qui descend vers Jéricho, en fait, maintenant, il regarde les richesses de l'homme qu'ils doivent sauver. Par exemple, si c'est un homme riche, ils apportent beaucoup de soins à cet homme, là, ils le visitent parce qu'ils voient les richesses qu'il a. Oubliant qu'en lui donnant la richesse, il s'amasse des grandes richesses dans l'éternité, dans le ciel. Voilà, et Paul dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Oui, honte devant Dieu. Honte devant le diable. Honte devant les démons qui se moquent de ces chrétiens, qui peuvent crier devant les hommes, mais aux yeux de Dieu, il dit en tout cas malheureux. Aux yeux du diable, il dit, Seigneur, j'ai le droit de toucher à cet homme. Aux yeux des démons, quand ils chassent, ils se moquent de lui. Ça, c'est vraiment une réalité. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc les chrétiens doivent se considérer comme des étrangers pour sauver les autres. Ça, c'est très important. N'aie pas aimé le monde, car le monde va passer. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Si nous nous attachons aux choses du monde, comment nous allons sauver les autres? Je lis ce verset aussi, que j'ai déjà récité, mais je le lis quand même pour ceux qui auront besoin de précision. C'est dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16, que j'ai récité ce passage qui dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » C'est ce que Dieu veut. Il veut que nous puissions demeurer éternellement. Brièvement, on l'a abordé dans l'émission passée, que Jésus-Christ se considérait comme un étranger. Il veut également que nous, ses enfants, nous nous considérions de la même manière, comme des étrangers. Ainsi, voyant la richesse qui est dans l'éternité, nous allons beaucoup travailler pour transmettre à ceux qui ont quitté Jérusalem ce goût de pouvoir revenir à Jérusalem, leur disant, venez à Jésus, laissez le mal, venez à Jésus, il ne vous condamne pas, il n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Alors, venez à Jésus. Retournons un peu comme le titre, ou je dirais le nom de ce ministère. Venez à Jésus. C'est tout ce que nous pouvons dire, parce que Jésus, il est l'élément le plus important qui compte pour nous. C'est lui la vie éternelle. Et quand le Samaritain s'est penché pour secourir, je dirais, cet homme qui était tombé, il a fait quelque chose qui montre l'amour de Christ. Je voudrais un peu lire cet amour de Christ dans Actes chapitre 3, verset 26. La Bible dit ceci. « C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. » C'est-à-dire ici, l'apôtre veut nous dire que si Jésus-Christ était venu, il était venu, un, pour nous bénir, deux, pour détourner chacun de nous de nos iniquités. C'est-à-dire, s'il y a un chrétien qui a quitté Jérusalem pour descendre vers Jéricho, en fait, qu'il sache que Jésus est venu pour lui détourner de cette mauvaise voie qu'il a suivie, mais aussi pour le bénir. La bénédiction ici n'est pas toujours une bénédiction matérielle. Parce que si on doit dire que Jésus est venu nous bénir seulement des biens terrestres, que dirons-nous de ceux qui sont chrétiens et qui n'ont pas d'argent? Eh bien, nous le disons haut et fort que même si tu n'as pas de richesses, même si tu traverses des temps difficiles matériellement, mais aux yeux de Dieu, comme tu as Jésus, tu es béni. Il Amen. Nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes.
Éphésiens 1, verset 3.
Oui. Deux fois, quand je médite sur ce verset, je me dis, un homme qui traverse des temps difficiles, Dieu dit, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Toutes sortes de bénédictions. Alors, il faut s'imaginer, c'est quel genre de bénédictions. Donc, au fait, c'est pour dire que l'acte de croire en Jésus-Christ apporte la bénédiction. Mais l'acte de rejeter le Seigneur Jésus-Christ attire la malédiction. Donc, tous ceux qui choisissent de rejeter Christ, ils ne sont pas bénis, ils sont maudits. Ils ont choisi la malédiction comme leur ami. Ils marchent avec les richesses de la terre, mais aussi avec la malédiction. C'est pour cela qu'ils se retrouvent dans l'état de l'homme qui était à demi-mort. Ils sont encore vivants, ils respirent, mais aux yeux de Dieu, ils ne respirent pas. C'est pour ça que je comprends d'une autre manière le verset du psaume qui dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. C'est vrai, on peut le comprendre dans un sens pour dire tous ceux qui ont la respiration, qui sort des poumons, ils doivent louer le Seigneur, oui. Donc là, dans ce contexte, on dira que même les païens, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils doivent louer l'Éternel. Mais dans un autre sens, lorsque je lis les Écritures, aux yeux de Dieu, tout le monde ne respire pas. Aux yeux de Dieu, il y a de ceux qui marchent sur la terre, mais ce sont des morts. Or, un mort ne respire pas. Spirituellement, comme on dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, pour Dieu, il considère que oui, spirituellement, cet homme, il est mort. C'est-à-dire, on respire physiquement, mais spirituellement, aux yeux de Dieu, nous respirons aussi. Donc, celui qui obéit à la parole de Dieu, c'est celui qui respire. Donc, en fait, dans un autre angle, on peut aussi dire que celui qui aime Dieu, qu'il loue l'Éternel. Parce que celui qui n'aime pas Dieu, sa prière, en fait, Dieu ne l'écoute pas quelque part.
La Bible même dit quelque part que c'est une malédiction, celui qui n'écoute pas la loi de l'Éternel.
Oui.
Sa prière est même une malédiction.
Une abomination. C'est dans Proverbes.
Tout à fait, c'est dans le livre de Proverbes.
Oui. Donc, en fait, ce que dire, c'est-à-dire, qui ont toujours une communion parfaite avec lui. Et c'est là que je vois l'amour de Dieu. Il est venu nous bénir, ôter la malédiction en nous détournant de nos iniquités. C'est vraiment ce qu'il a décidé de faire pour cet homme qui descendait de Jérusalem vers Jéricho.
Ému de compassion.
Oui.
C'est l'amour qui l'a poussé à aller assister cette personne-là.
Cet amour me pousse même à penser à ce que Jésus-Christ a fait pour Adam et Ève. C'est eux qui ont fait le mal. C'est Ève qui a péché. Et qui a poussé aussi Adam à pécher. Donc, l'homme a péché. Nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. De sorte qu'on pouvait même pas avoir, on peut même pas avoir raison devant le Seigneur.
Impossible.
Mais, regardez dans Genèse 3, au verset 21, malgré ce que Adam et Ève venaient de faire, regardez la réaction de Dieu. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il les en revêtit. D'abord, je voudrais attirer l'attention de ceux qui ont déjà lu cette scène, ce texte sur la vie d'Adam et Ève, c'est que quand ils se sont retrouvés nus, ils ont cherché des feuilles, des figues. Ils en sont fait comme des vêtements, si je peux le dire. Genèse chapitre 3, au verset 7, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. » Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. En fait, le figuier, c'est aussi l'image de la parole, dans un sens, lorsqu'on le lit. Mais quand on voit Adam et Ève prendre ces feuilles et s'en faire des habits, en fait, ce n'était pas dans la volonté de Dieu que ce soit des feuilles qui soient leurs habits. Pour Dieu, il fallait qu'il utilise la peau d'un animal. Alors, dans ce sens, je comprends la pensée pour dire qu'en fait, il y a des gens qui utilisent la parole à leur manière, pour s'habiller à leur manière. Ils cherchent leur propre justice. Mais Jésus-Christ est la justice parfaite qui fait que nous soyons agréables à Dieu. Et je vois là de Dieu dans le sens où Dieu est descendu. Il a tué. Moi, je comprends ça comme ça. Il a tué un animal. Il a pris la peau de l'animal et il a revêti Adam et Ève. Une préfiguration qui montrait qu'un homme allait venir sur la terre.
Pour mourir pour
Il allait mourir pour moi, pour toi, pour ceux qui nous écoutent, et nous revêtir afin que devant le Seigneur, nous ne soyons pas nus. Par là, je vois la thérapeutique de Dieu. Un homme qui sait, notre Dieu, il apporte le traitement qu'il faut pour nous amener à revenir à lui, pour nous amener à la communion que Adam et Ève avait perdu. Voilà un peu le souci des dieux. Donc, pour ceux qui nous suivent, restons attachés à Dieu pour rester à Jérusalem. La justice des dieux, l'habit que Dieu a donné à Adam et Ève, c'est aussi la personne de Jésus-Christ. Je vais lire ce verset de Romains chapitre 14, Romains 13, 14. La Bible dit ceci, Romains 13, 14. La Bible dit ceci, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ.
Mon frère et ma sœur, Jésus-Christ est venu pour nous donner la justice de Dieu. Jésus est la justice de Dieu. Comme l'a dit Jonathan, nous n'avons pas besoin de nous trouver notre propre justice, que ce soit les œuvres, que ce soit la chair. Non, Jésus-Christ est venu pour nous. Il ramasse, si je puis dire, il aide et ramasse tous les demi-morts en chemin. Peut-être vous qui nous écoutez en ce moment, vous êtes un demi-mort. Ou peut-être même vous êtes un mort spirituel. Mais la vie spirituelle se trouve en Jésus-Christ. Et l'opportunité vous est donnée aujourd'hui de venir à Jésus. Venez à Jésus, vous qui êtes chargés et fatigués, et il vous donnera du repos. Mon frère, ma sœur, Dieu vous aime. Et s'il a permis cette émission, c'est parce qu'il veut vous sauver. Si vous voulez donner votre vie à Jésus, c'est très simple. Baissez la tête et répétez ces simples mots après moi. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, me voici devant toi. J'ai entendu ton appel, j'ai entendu ton message. Je prends l'engagement aujourd'hui et jusqu'à la fin de ma vie de suivre Jésus-Christ tous les jours de ma vie et dans tous les domaines de ma vie. Merci de me purifier avec le sang de Jésus-Christ, de me laver avec le sang de Jésus-Christ. Merci de me donner un nouveau départ en Jésus-Christ. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou et le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, avec Jonathan Junior Mambou. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine.
À la fois prochaine et que Dieu vous aide à rester à Jérusalem.
Amen.
Amen.
L'émission « Venez à Jésus » vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.